Quelques années sont passées et Élie va devoir retourner devant Akab pour une bien triste histoire. On lit dans le chapitre 21 du premier livre des rois. Cette histoire, vous la connaissez peut-être. On va voir deux choses aujourd'hui. Mon thème, c'est mon engagement, donc l'engagement qu'avait Élie, pour la justice face au petit chef. Et je crois que chacun d'entre vous, vous avez forcément dans votre entourage un ou une petite chef. Qu'est-ce que c'est qu'un petit chef ? C'est quelqu'un qui a connu une forme de réussite. Que ce soit une réussite sociale avec des diplômes, avec le fait d'avoir réussi quelques examens ou bien tout simplement avoir financièrement une certaine abondance matérielle. Un petit chef, c'est peut-être quelqu'un qui a eu une promotion, beaucoup de gloire tout d'un coup dans l'entreprise ou à côté de vous. Ou bien c'est quelqu'un qui, dans sa maison, se prend pour un petit chef. C'est-à-dire que le monde peut tourner, l'important c'est qu'il soit au centre, qu'il soit celui qui dirige à la maison, que tout soit prêt pour lui, que ça tourne autour de lui, ou bien autour d'elle. Parce qu'il y a autant de petits chefs masculins que féminins. Et Dieu, et c'est le thème de ce matin, juge tout le monde. Toi, moi et tous les petits chefs. Et quelque part un jour dans notre vie, quelque part un jour dans ta vie, tu seras aussi un petit chef. Parce que la roue tourne. Peut-être aujourd'hui tu as l'impression que tout le monde te marche dessus, mais la roue tourne. Puis des fois tu es petit chef sur un tout petit royaume, ça s'appelle deux enfants, mais tu commandes d'une telle façon qu'ils ont bien compris que c'était toi la petite chef ou le petit chef. Et pour tout ce que tu fais, de bien ou de mal, tu passeras en jugement pour cela. La Bible dit, ne cherchez pas, il est dit, j'ai constaté autre chose sous le soleil, à la place du droit, il y a la méchanceté, à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose, pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose, pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Seigneur, conduis-nous dans ce message. Seigneur, c'est tellement peut-être une facilité pour nous de considérer que c'est les autres qui ont besoin d'entendre cela. Seigneur, si tu as permis que je sois là, ça peut être pour moi que tu veux parler et pour que mon orgueil peut-être soit brisé. Tu veux, Seigneur, que dans ce lieu, il y ait une pensée de Dieu qui passe. Et je te prie pour que ce matin, tu te fasses un chemin dans mon cœur, dans le cœur qui a besoin d'entendre ce message, dans cette femme qui est venue et qui ne s'attendait pas à recevoir cela, dans cet homme qui est venu et qui ne s'attendait pas à être interpellé comme ça. Mais que ce soit toi, Seigneur, en tout cas, qui fasse la différence. Je te prie pour une onction sur ce message. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a un roi Akab que vous connaissez bien. Élie le connaît bien aussi. C'est comme deux ennemis qui se connaissent depuis longtemps. Ils connaissent les travers les uns des autres depuis tellement longtemps. Et on arrive un jour où Akab s'ennuie. Et Akab est tombé non pas amoureux d'une autre femme, il est tombé amoureux d'un autre champ parce qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son pouvoir, il aime beaucoup ses possessions, ses biens. Et il a trouvé qu'il y a une vigne formidable en face de chez lui, de son palais à Jizréel. Une magnifique vigne qui doit donner du bon vin et il est jaloux, il a envie de la voir. Alors il va voir Naboth, son propriétaire, et lui dit « Donne-moi ta vigne ». Et Naboth dit « Je suis désolé, t'as beau être le roi, cette vigne appartient à ma famille depuis des générations ». Je ne ferai pas offense à mes anciens. Cette vigne, je ne peux pas te la vendre. Tout maussade, triste, ce petit chef qui s'appelle Akab retourne dans son palais, fait la tête, va bouder contre le mur, juste ce qu'il faut pour que sa femme le plaigne. Ça devrait déjà vous parler. Et il ne fait rien si ce n'est que de se plaindre. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'être petit chef, on va le voir. Alors le premier personnage que l'on voit, donc, c'est Akab. Est-ce que Akab est juste? Vous allez me dire, Akab, dans le texte de 1 Roi 21, ne fait rien. Et pourtant, on lit ensemble. 1 Roi 21, on va prendre la fin de ce texte, verset 17. Alors l'Éternel adressera la parole à Élie de Tishbé en ces termes. Mets-toi en route et va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Ce qu'a fait Akab, c'est que, en ayant boudé, Jézabel, sa femme, la femme du roi, donc qui a autant d'autorité que le petit chef qui est à côté, a fait le ménage pour son mari. Elle a fait assassiner Naboth, elle l'a fait accuser à tort, elle l'a fait lapider, et elle va voir son mari Akab en disant « Regarde, le champ est libre, il n'y a plus personne. » Alors Dieu parle à Élie. Verset 19, « Tu parleras en ces termes, voici ce que déclare l'Éternel. Quoi ? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens ? Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. » En voyant Élie, Akab s'écria, « Ah, te voilà mon ennemi ! Tu m'as donc retrouvé !» Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare. Je vais te frapper d'un grand malheur, je balayerai sur la surface de la terre, toi, ta descendance, et je retrancherai d'Israël tous les hommes et toute ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nabat. » C'était le roi d'avant qui avait été balayé par Akab. Alors je me suis dit, Akab, est-ce qu'il est juste ? Parce que ce jour-là, quand il voit Élie et qu'il le prend de haut en disant, « Hé, mon ennemi, te voilà ?» Il y a un peu de provocation, mais c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Mais derrière, je pense que ça veut dire que Akab ne se sent pas du tout coupable de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que Akab a fait à Naboth ? Précisément rien. S'il a un bon avocat, il s'en sort avec rien. Acquitté, blanchi, non-lieu absolu. Il n'a donné aucun ordre. Il a simplement pleuré parce que lui, le roi, n'a pas été respecté dans son autorité. C'est presque légitime. En temps d'Israël, le roi avait le droit sur les biens, sur les gens. On était dans une société qui était une société archaïque dans laquelle il était convenable que le roi soit un despote et c'était tout à fait normal. Donc ce jour-là, le roi, lorsque il ne fait rien sur Naboth, c'est simplement sa femme qui prend une initiative, il peut le dire, j'y suis pour rien. Et toi c'est pareil, je crois que, maintenant je vais te demander d'analyser un petit peu ta façon de vivre chez toi, dans ton foyer, avec les tiens. Je voudrais que tu réalises, tu penses un petit peu maintenant qu'est-ce qui se passe dans ton travail au bureau. Comment tu réagis? Et combien de fois, en faisant la tête ou en boudant, tu fais pression pour que d'autres te donnent raison, alors que parfois tu devrais avoir tort. Et que tu fais passer tes caprices personnels pour une forme de justice. Moi, ça m'arrive aussi. Parce que vous êtes tous en puissance des petits chefs, vous êtes toutes des petites chefs, vous êtes des manipulatrices, je suis un manipulateur. Si jamais je laisse mon ego, mon moi, prendre le dessus. Et Dieu déteste les petits chefs comme ça. Il n'y a pas un parmi nous qui peut se dire « je suis à l'abri de cela ». À chaque fois que vous allez être confronté avec quelqu'un qui vous flatte, avec le pouvoir, très vite, vous allez voir votre caractère change. Regardez, pensez à une personne qui vient de très très loin, qui a pu grandir et s'élever. Très vite, avec la gloire, avec les gens qui font des « oh ». Qu'est-ce que tu es quelqu'un de bien ? Ça monte très vite. C'est pour ça qu'on se retrouve à devoir changer de président régulièrement. Parce que quand ils sont élus au tout début, tout le monde les aime bien. Au bout d'un moment, ils ont tous la grosse tête. Ils commencent humblement en disant « je serai quelqu'un de normal ». Et après, on verra. Et celui d'avant nous avait promis quelque chose d'exemplaire jusqu'à ce qu'il mette son fils à l'EHPAD. Et c'est toujours pareil. Parce que ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de votre style de vie, de votre religion, c'est une question de cœur. Vous êtes, je suis, quelqu'un qui, si je ne fais pas attention, le centre du monde finit par être moi. Et Dieu regarde cela parce que il sait qui dirige le monde. Et lorsque Akab se présente devant Élie, il a oublié que Dieu voit tout. Et je voudrais te parler de Dieu. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu jugera tout. Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose, chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Vous allez me dire, mais c'est quand même étonnant sur la terre. Combien Dieu permet que le mal se produise? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que des personnes comme Jézabel fassent assassiner un innocent? Mais pour que Jézabel assassine un innocent, il faut qu'il y ait simplement un Akab qui ait envie d'un champ. Si jamais il n'y avait pas eu un Akab qui avait envie d'un peu plus, il n'y aurait pas eu un mort. Arrêtez de simplifier le monde. Le monde n'est pas fait de bons et de méchants. Le monde est fait de bons qui ont en eux une petite part de méchants. Et c'est cette petite part de méchants dans laquelle Satan s'engouffre pour faire de nous des marionnettes qui font ses plans et qui défont les plans de Dieu. Et quand Akab fait sa petite bouderie et qu'il se croit juste, il est en train de démarrer une chaîne d'incidents qui aboutira à la mort d'un innocent. Dieu voit tout, Dieu jugera tout, mais Dieu prend son temps parfois et c'est très, très, très étonnant. Parce que la patience de Dieu, elle est incroyable. Dans Hébreux 9, ne cherchez pas, je vous lis, il est dit « Le sort de tout être humain est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. » Je crois qu'il y a beaucoup de jugements qui n'ont pas lieu sur la terre. Et c'est bien triste. Mais ça serait trop simple. Dieu n'est pas quelqu'un qui va, sur la terre, finir par éliminer toute personne qui fait le mal. Vous savez pourquoi? Il n'y aurait plus de terrien. Et très vite, cette terre serait un grand océan vide. Dieu est patient avec tout le monde. Et Dieu te regarde et Dieu te voit. Et si tu le connais, et c'est le dernier point par rapport à ce texte, tu as un devoir d'exemplarité particulièrement fort. Alors, je regarde qu'est-ce qui se passe sur Élie. Élie, comment va-t-il agir là-dedans ? Élie, Dieu lui dit, lève-toi, va dire à Akab, t'es un assassin, t'es un meurtrier. Élie doit se dire, pour une fois que j'étais en pré-retraite, que j'avais pu un peu me poser, que j'avais choisi et que Dieu, tu m'avais donné un numéro 2 qui s'appelait Élisée, tu aurais pu l'envoyer quand même faire le travail, moi j'ai déjà donné. Maintenant, Dieu a dit à Élie de Tishbé, lève-toi et va dire à Akab, tu fais le mal. Edmund Burke a dit une phrase, et je l'ai vu en regardant un film qui s'appelait Les Larmes du Soleil. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, un film terrible sur un massacre en Afrique avec les. Bon, bref, c'était bien triste. Et il dit, pour que le mal triomphe, il ne suffit que du silence des hommes justes. Il ne suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Il y a un moment où, si vous voulez qu'il y ait un peu plus de justice sur la terre, vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous n'allez pas changer la terre. Mais Dieu t'a mis, toi, Élie, même si tu es une femme, tu peux être un Élie de Dieu pour dire ce que vous avez fait est mal et je ne le cautionne pas. Et c'est ton devoir à table de te lever et dire « Je ne suis pas d'accord avec cette phrase qui vient d'être prononcée. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer, par exemple, dans la rue, hier à Paris. » Vous avez le devoir de dire « Ça, ce ne sont pas mes valeurs. » Seulement, il est plus simple de rester assis, de laisser la conversation passer, de ne pas faire de remous et de laisser Akab prendre possession du champ de Naboth. Mais Dieu a besoin qu'il y ait un homme juste qui se lève et qui prenne un risque. Quand Élie va vers Akab, il se dit « Encore une fois, Dieu, tu me condamnes à la mort ?» Parce que c'est un arrêt de mort que Dieu lui demande lorsque Élie va devoir prendre le risque d'aller voir le roi pour traiter le roi de meurtrier. Il dit « Seigneur, tu m'as aidé quand j'étais dans le désert parce que Jézabel me disait « Demain, t'es mort, tu m'as sauvé. Une fois que je me suis un petit peu refait la santé, tu me demandes d'aller moi-même me suicider. C'est quand même bizarre tes plans, mon Dieu. » Non, parce que Dieu sait, et celui qui contrôle ta vie, c'est pas Akab. Celui qui contrôle ta vie, c'est Dieu. Et si Dieu te donne une mission, il te donne avec la mission la protection qui accompagne la mission. Alors Akab, tu peux ne rien faire sur Élie parce que les cheveux de sa tête sont comptés. Et lorsque Élie vient, il a ce devoir d'alerte et je remercie parce qu'il va le faire. Vous savez ce qui peut se passer lorsque un homme juste se lève? Je vais vous donner un encouragement par rapport à ce texte. Il peut se passer quelque chose de bien. Il peut se passer un événement que je ne pensais pas possible. Lorsqu'il y a une jeune fille qui se lève dans son collège pour dire ça, je pense que c'est pas bien. Lorsqu'il y a un homme au travail qui dit cette faute financière, j'y participerai pas. Lorsqu'il y a une maman dans une maison qui dit ça, je mettrai pas ça devant mes yeux et je suis pas d'accord qu'il y ait ça à la télé. Lorsque vous prenez des positions, même si c'est des fois à être mal vu par les autres, il peut se passer une chose extraordinaire. C'est que la personne peut réaliser qu'elle fait mal. Et je lis à la fin de ce texte dans le livre des rois au chapitre 21, tout à la fin, verset 27. Est-ce que c'est possible? Je vois un scoop. Connaissant Akab, je ne sais même pas qu'il était capable de ça. Akab, après avoir entendu les paroles d'Élie, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac à même la peau, refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement. Le jour, il se traitait à pas lent. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishbé et lui dit « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Et puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » Dieu va être étonné de ce que, parce qu'un juste qui s'appelle Élie a pris ses responsabilités, il y a un homme qui s'appelle Akab, qui était dans le péché jusqu'au cou et qui était sous la condamnation de Dieu, va avoir un sursis de Dieu. Parce que Akab va faire ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. C'est un cœur brisé. Et je voudrais te parler à toi qui t'es peut-être comporté, parce que si tu regardes ta vie, il y a des actions que tu as ou des attitudes que tu as eues qui ont provoqué des conséquences graves dans ta famille. Et peut-être s'il y a aujourd'hui autant de problèmes dans ta famille, tu es aussi une part de responsabilité, si tu analyses bien les choses. Eh bien, la bonne attitude, c'est l'attitude d'un cœur contrit, d'un cœur brisé qui dit « Seigneur, je prends ma part de responsabilité et je te demande pardon. » Ce n'est pas Akab qui a tué Naboth, mais Akab est en train de faire un deuil et en train de dire « J'ai mal fait, parce que ma bouderie a fait tuer un homme. » Et je me rends compte que là, ce jour-là, Akab est plus spirituel qu'un très bon chrétien évangélique. Parce que si tous les bons chrétiens évangéliques ou toutes les personnes qui se présentent de la famille de Dieu avaient ce même état de cœur prêt à être repris quand un dimanche matin Dieu leur dit c'est mal et qu'il est capable de et c'est pas simplement pleurer 5 minutes devant parce que le chant de louange est émouvant. C'est il prend le sac, la cendre. Pendant plusieurs jours, il est dans son palais, sa femme lui dit « Mais t'es un barjot ou quoi, t'as rien fait ?» Et Akab, il dit « Non, non, devant Dieu, je veux demander pardon parce que je suis jugé par Dieu. » Même pour le pire des pires, il y a de l'espoir lorsqu'il y a une repentance complète, un cœur brisé et un esprit humble. Et pour cette matinée, je vais terminer avec l'avant-dernier texte sur Élie. Mais cette fois-ci, on tourne dans Deux Rois. C'est exactement la même idée. C'est un autre petit chef. En général, les petits chefs se suivent et se ressemblent. Donc là, on a petit chef numéro 2, verset 1er du deuxième livre des Rois, au chapitre 1, verset 1. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Donc Akab, terminé. Le roi Ahazia, ça c'est le descendant d'Akab, tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zébud, dieu des Crônes, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route et va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, n'y a-t-il pas un dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébud, le dieu des Crônes ? C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Élie y alla. Alors les messagers retournèrent auprès d'Ahazia et leur demanda. Qui leur demanda ? Mais pourquoi revenez-vous déjà ? Ils lui répondirent : Un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné, Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites, voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zéboul, le Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. Ahazia leur demanda. Ahazia, donc c'est le roi. Hein. Mais quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? Ils lui répondirent, c'était un homme habillé d'un vêtement de poil de chameau, noué d'une ceinture autour de ses reins. Alors Ahazia dit, ah, c'est Élie le Tishbé. Vous savez ce que je retiens de cela? Regardez Élie. Élie, c'est le super prophète de Dieu. On est d'accord? C'est celui qui a fait ramener tout le peuple à Dieu au Carmel. C'est celui qui quand même a prouvé par des années de fidélité quand les autres n'osaient pas, lui, il a osé. C'est le seul qui a assez de tripes pour aller voir Akab et dire les choses de la part de Dieu, même quand c'est des choses négatives. Élie, c'est un homme qui est le formateur, c'est-à-dire on dirait c'est le pasteur des pasteurs, alors il y en a qui prennent beaucoup de titres d'internationaux, de prophètes internationaux, de je ne sais pas quoi. Là, pour le coup, Élie le mériterait vraiment le titre. Il pourrait rouler en Cadillac, Élie. Il pourrait avoir des servantes de l'Éternel, comme ils disent autour de lui. Il pourrait avoir une personne qui porte sa valise. Monsieur Élie, vous voulez un rendez-vous avec Monsieur Élie? Ah, attention, c'est un homme important. Il arrive avec le plus beau des smokings. Je ne sais pas si c'est maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a à la mode, si c'est du blanc, de l'or. Il y a des beaux trucs, des fois je regarde les... Des fois, le smoking, il est aussi ronflant que le titre. Je comprends pourquoi il parle autant d'argent après. Et quand je vois ça, je me dis, Élie, comment tu t'habilles? Vous avez vu comment on a reconnu que c'était le prophète Élie? C'est pas parce qu'il a dit quelque chose. C'est pas par sa parole qu'on l'a reconnu. C'est parce que c'était celui qui était habillé avec une ceinture et un vêtement en poil de chameau. Ahazia s'est dit, pour qu'un homme ait autant de courage et une parole de Dieu, et il a l'habit de l'humilité qui va avec, c'est un homme de Dieu, et c'est Élie. Il n'y a que Élie qui, alors qu'il pourrait être habillé avec des habits royaux, est habillé comme un bédouin qui cherche encore à plaire à son Dieu. L'exemplarité, mes amis, c'est aussi vrai dans l'Église. Et là, je voudrais parler à tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, à tous ceux qui sont impliqués un jour dans un service, qui ont à cœur de faire du bien aux autres. Et ça commence y compris par moi. C'est la mentalité que notre Seigneur Jésus nous a dit. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit parmi vous. Que celui qui aspire à une tâche qui est haute commence par les tâches les plus basses. Qu'il y ait en vous vraiment un esprit d'humilité. Et Élie commence à... Et il n'a même pas besoin de faire un grand discours. Son habit parle pour lui. Et ce n'est pas du décorum, c'est pas du kitsch, c'est du vrai. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé entre le moment où il était le prophète inconnu et quand il est le prophète reconnu. Est-ce que ton caractère va changer quand tu auras pris du galon? C'est contre nature de rester avec le même caractère d'humilité. Parce que tous les autres, quand tu vas avoir un peu de succès dans ta vie, vont te pousser vers le haut et tu vas t'habituer à des choses un peu plus... luxueuse. Reste petit à tes yeux. La Bible disait à Saül, tant que tu étais petit à tes yeux. Alors pour Ahazia, il y a quelque chose là. Ça, c'est peut-être toi qui visites ce matin, qui ne connais pas beaucoup Dieu. Tu as quelques réussites dans ta vie, Et puis tout d'un coup, il est arrivé un accident. Vous savez, la roue tourne. Hein, il y a beaucoup de personnes qui font sans Dieu. Ahazia, il n'en a rien à faire de Dieu. C'est un roi, il est riche, il a une famille, il a un palais, il a des villas, il est tranquille dans sa vie, il n'en a rien à faire de Dieu. Jusqu'au jour où, bêtement, il est sur son balcon, il dérape, il tombe. Vous savez que la roue tourne, hein. Pour les méchants et pour les bons, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a les moments de force et il y a les moments de faiblesse. Et toi qui fais sans Dieu, qui construis ta vie sans Dieu, tu peux dire, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout. J'ai ma villa, j'ai mon palais. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis bien, j'ai réussi dans ma vie, je suis reconnu dans mon métier. Méfie-toi parce que la roue tourne un jour. Et un petit accident aussi idiot que ça fait basculer ta vie, c'est le cas de le dire. Et tout d'un coup, Ahazia se retrouve, mais dans son lit, paralysé. Il avait tout, il n'a plus rien. Et là, de son lit, au lieu de crier à Dieu, il essaye de faire des petits trafics avec ses idoles, avec ses faux dieux. Il va essayer de dire, ah, il faut que un Baal-Zébouth vienne m'aider. Baal-Zébouth, ça s'appelle le dieu des mouches. C'était un des dieux qui était à Ekron en Palestine. Aujourd'hui, c'est dans le nord de la bande de Gaza. Et là, je ne sais pas, il devait y avoir là un endroit où on priait un dieu des mouches. Et vous voyez, c'est tellement triste. Parce qu'il s'accroche à tout ce qu'il peut, quoi. Au lieu de s'accrocher à Dieu. Tu sais que tu es en train de t'accrocher à tout ce qu'il peut au lieu de t'accrocher à Dieu. La vérité, Ahazia, commence à crier vers l'Éternel. Arrête tes gris-gris, arrête ton occultisme, arrête toutes tes petites choses, que tu dises oui, mais c'est de Dieu ou que c'est pas de Dieu. Crie vraiment à Dieu. Et pour crier à Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. Tu te mets vraiment en prière avec un cœur brisé et un esprit humble. Et c'était ça que Dieu attendait d'Ahazia. Mais puisque tu es allé vers des faux dieux, tu resteras sur ton lit et tu seras, et c'est là où tu mourras. C'est ce que Dieu dit à Élie. Alors j'arrive à ma conclusion. Je voudrais vous dire, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que il va envoyer des gardes à Ahazia pour aller récupérer Élie. Et au lieu d'aller vers Dieu, il va faire chercher Dieu. Va voir Dieu toi-même. Demande, voilà, appelle-le, mais ne force jamais Dieu. Il va amener des gardes, là, et c'est un des passages bizarres, mais comme c'est dans la Bible, je dois vous le lire. Donc, peut-être certains, vous ne l'avez jamais lu, ce passage, et c'est par cela qu'on va conclure ce matin. Donc, aussitôt, verset 9, il envoya vers Élie des officiers avec une cinquantaine d'hommes pour qu'ils le lui ramènent. L'officier monta vers Élie qui se tenait sur le sommet de la montagne, il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre !» Et lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudra toi et ta cinquantaine. Aussitôt la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et la cinquantaine de soldats. On ne joue pas avec Dieu, mes amis. Hein. On ne joue pas avec Dieu. Il y a un deuxième petit chef là, verset 11. Ahazia envoya un autre officier accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre !» Il n'a rien compris, lui. Il faut être dur dans sa tête, quand même. Hein. Il n'a rien compris, et vous savez ce qui va se passer, du coup. Élie répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel, te foudroie, toi et tes hommes. » Quelle tristesse. Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier sa cinquantaine. Ahazia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux. Tu devrais souligner ça dans ta Bible. Fléchit les genoux. Devant Élie, il le supplia, dit, « Homme de Dieu, je te prie, aie égard à ma vie et à celle de cette cinquantaine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et tu as foudroyé les deux premiers chefs et leur cinquantaine. Mais maintenant, aie égard à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne crains rien de sa part. Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier du roi. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut vous dire ce matin ? On ne vient pas voir Dieu debout. Et je ne parle pas que d'une position géographique. On vient voir Dieu avec les pieds contrits, les genoux pliés. Lorsque vous venez voir Dieu, ce n'est pas parce que vous avez des années de conversion que vous pouvez faire comme si Dieu était un pote. Dieu est le Dieu du ciel. Et quand cet homme-là est très léger, et il y a plusieurs histoires dans la Bible comme ça, où des personnes sont venues devant Dieu de façon très légère, ça se passe mal, mes amis. Ça se passe mal. Lorsque Moïse est allé devant Dieu, même si c'était un ami de Dieu, et qu'il y allait avec légèreté, ça s'est mal passé. Et Moïse a regretté toute sa vie. Quel que soit votre nom, qu'il ne vous monte pas à la tête. Quelle que soit votre réussite, qu'elle ne vous monte pas à la tête. Que tu règnes sur une petite maison avec ton mari et tes enfants. Ou que tu règnes sur un service de comptabilité. Que tu règnes dans ta cité parce que tu es connu pour ça. Que ça te monte jamais à la tête. Parce que Dieu passera chaque acte en jugement. Je te connais, je sais qui tu es, et je regarde ceux qui ont un cœur brisé, un esprit humble. À la croix, Jésus est venu pour ça. Lui, il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il s'est dépouillé de sa gloire, brisé pour tes péchés. Le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est tombé sur lui. Et il a été brisé pour nos fautes. Vous comprenez cela ? Vous priez de ressembler à Jésus, alors faites-le. Ayez un cœur, que Seigneur, entends ma prière ce matin. Donne-moi un cœur brisé, un esprit humble. Donne-moi de pouvoir être celui qui reconnaît mes torts, plutôt qu'essayer, comme Acab, de passer au travers. Et croire qu'avec le temps, les choses passeront. Ce que tu as mal fait, tu veux voir la personne, tu demandes pardon, point barre. Moi, j'ai dû le faire cette semaine, ça m'a fait encore bizarre. Ça fait toujours bizarre. On n'aime pas demander pardon, mes amis. Mais c'est le seul chemin que Dieu veut pour toi et pour moi. On ferme les yeux ensemble. J'aimerais que l'équipe de louange, pendant ce que les yeux sont fermés, puisse reprendre ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et découvert à ses yeux. C'est à lui que nous devrons rendre compte. C'est ce que dit la Bible dans le livre des Hébreux. Alors que les yeux sont fermés, je voudrais que tu aies cette humilité en cet instant. De demander à Dieu de te pardonner, de te purifier de tout péché. Je demandais aux frères de s'approcher pour la Sainte Cène, mais on va tous garder les yeux fermés et on va rester dans l'état de prière pour l'instant. Seuls les frères pour la Sainte Cène s'avancent.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies, l'éternité. Sonde-moi.
Exauce-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Et prouve-moi, Seigneur. Mes pensées, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi et conduis-moi. Conduis-moi, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi. Toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Je demandais à ce qu'on va garder encore un instant les yeux fermés, mais je voudrais donner l'occasion à une personne qui veut, et vous êtes peut-être plusieurs ce matin. Vous savez, parce que Dieu vous a interpellé par ce message, et le roi Achab, lui, il a pris un vêtement de cendre, il s'est humilié, le dernier des petits chefs a dit « Aie pitié de moi », et il s'est fait tout petit devant Élie. Est-ce que tu voudrais ce matin te mettre en règle avec Dieu, demander pardon à Dieu pour tes fautes, pour tes comportements? Dans ce cas-là, je vais te demander une chose, alors que les yeux restent fermés, parce que je veux que ce moment reste solennel. Tu te lèves à ta place. Tu te lèves non pas pour te lever devant les hommes, mais pour te lever devant Dieu. C'est à Dieu que tu rendrais compte. Et si jamais il y a une chose dans ta vie que tu sais qui n'est pas belle, ou une attitude que tu as régulièrement, qui déplaît à Dieu et que tu justifies, lève-toi à ta place maintenant. Alors je vais te proposer dans ton cœur de dire à Dieu cette prière, pas à voix haute, juste dans ton cœur. Cette prière que David a faite, aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de joie, d'allégresse, et les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Je ne regarde plus à mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie de ton salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Seigneur, je te prie parce que je crois que le sang de Jésus témoigne que tout est payé, que l'on n'a plus à souffrir aujourd'hui de nos péchés, puisque il y a un agneau de Dieu. Il y a un agneau de Dieu qui à la croix a payé pour mes péchés et pour les péchés de chaque personne debout dans ce lieu. Efface nos torts. Et nous invoquons le magnifique nom de notre Sauveur pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen.